Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous. C'est un immense plaisir de retrouver dans ce studio Catherine, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonjour à vous quatre.
Bonjour. Bonjour.
Lénaïque l'a dit dans le journal, nous sommes le 11 septembre 2021 et il y a 20 ans, deux avions de ligne s'encastraient dans les tours jumelles du World Trade Center de New York. Depuis, le terrorisme du 21e siècle s'est répandu, amplifié. On pourrait même dire cyniquement qu'il s'est banalisé. En 2015, la France, touchée de plein fouet par une série d'attentats parisiens, le 13 novembre faisant 130 morts. Le procès tant attendu a commencé mercredi et l'homme vers qui tous les regards sont tournés, c'est Salah Abdeslam, seul survivant du commando. Question, la justice est-elle adaptée ou faut-il substituer à l'état de droit une justice exceptionnelle comme à Guantanamo? Nous en discuterons. La politique, Éric Zemmour entre en campagne. Le polémiste publie jeudi prochain son nouvel ouvrage intitulé « La France n'a pas dit son dernier mot ». En quoi ses propos, en quoi sa candidature peuvent-ils perturber la campagne? En quoi propose-t-il un ton nouveau? Quelles sont ses chances? Et puis nous reviendrons sur la mise en examen d'Agnès Buzyn par la Cour de justice de la République hier pour sa gestion de la crise du Covid. Une ex-ministre de la Santé inculpée pour mise en danger de la vie d'autrui, c'est une première. Est-ce le gouvernement des juges? Assiste-t-on à une vengeance de la justice sur le politique? Le responsable politique doit-il se préparer à répondre de la moindre de ses décisions? Débat dans la deuxième partie de cette émission. Vous avez le programme, installez-vous, le débat des grandes voix, c'est parti. Et nous ne pouvions pas évoquer, ne pas évoquer, la disparition de cet immense acteur qui était Jean-Paul Belmondo. Sa mort lundi, l'hommage national jeudi, les funérailles hier, trois dernières étapes d'une carrière longue de plus de 60 ans, près de 80 films, sans compter le théâtre et la télévision. Bébel, c'était le cinéma, c'était les copains, l'amitié, la bonne bouffe, la fidélité, la transmission, les enfants, les petits-enfants, le sport, le vélo à Longchamp tous les week-ends, le foot. Et bien sûr, mon cher Charles Villeneuve, vous qui l'avez bien connu, Jean-Paul Belmondo, il y avait la boxe aussi.
Il avait une foi, Belmondo, inébranlable dans le sport. Et un amour qui n'a jamais faibli pour la boxe. Il n'était jamais en retard d'une pitrerie et toujours en avance d'une gentillesse pour nous, les journalistes d'Europe 1, notamment lorsque nous étions sur le terrain et en 72-73, j'étais sur le terrain pour les fameuses rencontres entre le champion français Jean-Claude Boutier, poids moyen, et le démolisseur argentin Monzon, bon, Carlos Monzon. Vous savez que tous ces combats ont été produits, organisés par ce qui est l'égal, très différent évidemment de Jean-Paul Belmondo, Alain Delon. C'est lui qui avait produit, qui avait garantit les bourses de l'Argentin, etc. Et je lui avais demandé, alors qu'il était quasiment au bord du ring, comme nous, les journalistes et les commentateurs, d'analyser toutes les minutes de repos. Et il l'avait fait volontiers, il le faisait toujours volontiers, sans calcul, spontanément, etc. Et c'est juste un extrait de la fin du combat entre Jean-Claude Boutier et Monzon que je voudrais vous faire entendre, ne serait-ce que pour se rappeler qu'il était toujours précis et d'une manière, si vous voulez, technique incroyable.
Honnêtement, je pense que Bretonnel a bien fait d'arrêter Boutier parce qu'il était très... Disons, il a été marqué à l'œil, il était fatigué, les coups de Monzon rentraient de plus en plus et je pense que Boutier n'avait plus aucune chance de gagner, il avait beaucoup trop de retard pour moi de toute façon. Il reste champion d'Europe et continuer devant un type qui frappe aussi fort que Monzon, diminué et fatigué, c'était trop dangereux. Et je crois qu'il y avait ce soir, en tout cas il y avait une place au-dessus, il pouvait rien faire.
Voilà.
Oui, je voulais qu'on entende, si vous voulez, sa voix et sa technicité dans ce sport. Il ne faut pas oublier que le 22 septembre 1948, il écoutait à la radio le combat entre Marcel Cerdan et Tony Zell, qui était un démolisseur américain. Marcel Cerdan avait gagné ce combat. C'est ce qui lui avait inspiré de faire de la boxe. Mais il avait dit à tous ceux d'entre nous qui le connaissions bien, simplement ce mot... j'ai adoré la boxe, j'avais un bon gauche, mais je n'aimais pas prendre les coups. Donc j'ai préféré finalement être acteur.
Catherine Ney, un mot sur Jean-Paul Belmondo.
Non, mais en entendant sa voix, bon, c'est vrai que c'est un homme qui,
qui incarnait la gaieté. Il avait son talent, c'était son don d'empathie qui faisait qu'on avait forcément de la sympathie pour lui. Mais quand on l'entend parler, oui. Il avait cette chose, il avait une gouaille populaire, chic, une nonchalance musclée, qui n'était, derrière, il y avait du travail. C'était quelqu'un, vous savez, qui avait des valeurs, du travail, qui était enfin, unique en son genre.
Gérard ?
Écoutez, moi, je ne connaissais pas personnellement Jean-Paul Belmondo. J'étais comme la plupart des Français de notre génération, de ma génération et de celle d'après, un fan, mais du cinéma. Et je dois dire, la seule chose, que, c'est que je le regardais aux Invalides, dans cette belle cérémonie, et je me suis pris à avoir les larmes aux yeux.
Bien sûr.
J'étais tout seul dans mon fauteuil, et oui. J'avais les larmes aux yeux, et pourtant, je ne suis pas une midinette. Mais c'est rare que ça m'arrive. C'est rare que
si,
ça m'arrive.
Mais, oui.
Mais j'ai pleuré quelque part. J'ai pleuré le départ de Bébel.
Non,
Bébel.
Pas quelque part, t'as pleuré.
Michel Cotard. Oui.
D'une certaine façon, c'est une image de ludité française. Parce que tous les publics l'aimaient, sauf les journalistes. Il faut quand même distinguer les critiques.
Les journalistes
qui détestent
de cinéma.
Généralement, qui détestent
pas tous.
Mais qui détestent généralement le cinéma populaire. Mais au fond, à la fois, on ne peut pas se reconnaître quand on est une femme, on ne se reconnaît pas dans Belmondo. Mais en tout cas, il a tout incarné, il a, avec un talent fou. Et c'est vrai que moi aussi, j'étais émue par, d'abord par ce bel hommage quand même. Hein. L'hommage était beau à la fois de la part des comédiens et beau à la fois les discours qui ont été prononcés et par le petit-fils et par le président de la République.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur Jean-Paul Belmondo qui nous a donc quitté cette semaine.
Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Changement de décor, on va parler d'Éric Zemmour avec son livre qui sort la semaine prochaine. La France n'a pas dit son dernier mot. Michel Cotta, vous avez lu vous avez lu entièrement le livre ou en tout cas une grande partie.
Une grande partie. Alors, je vais vous dire, c'est très difficile de parler de d'Éric Zemmour. Parce qu'il fait de temps en temps et souvent des constatations qui sont vraies et que l'on sait vraies.
Par exemple
je ne sais pas si dans tous les cafés de la Seine-Saint-Denis, il n'y a pas de femmes, mais dans certains cafés, oui, je suis sûre qu'il n'y en a pas. Même chose sur, évidemment, le péril du terrorisme. Mais on peut le suivre sur certaines choses et se dire, c'est vrai. De temps en temps, on n'ose pas en parler, parce qu'on ne veut pas faire d'amalgame, parce qu'on est... faut faire attention. Et à la fois, on se dit... à un moment donné, il y a quelque chose qui dérape. Il va trop loin, il n'y a pas
on
de
est
solution.
Mal à l'aise.
Tout est apocalypse. Et là, on se dit, mais enfin, quand même, on a peut-être un rôle à jouer. Les générations qui nous suivent ont peut-être un rôle à jouer. Rien n'est automatique. Chacun peut se défendre. Les démocraties ne sont pas forcément dépouillées de réponses à ça. Donc, à la fin, on passe son temps à se dire, quand même, là, il a quand même pas tort. Et puis, à la fois, on se dit, non, c'est pas à ça qu'on veut arriver.
Gérard Carrère.
Il y a deux questions sur Éric Zemmour. La première, c'est pourquoi fait-il peur ? Et la deuxième, c'est est-ce qu'effectivement, la venue de ce personnage change-t-elle drastiquement l'élection présidentielle ? Alors, je ne vais pas répondre aux deux, mais je vais dire un mot de la première. Pourquoi fait-il peur ? Il fait peur. Sinon, j'imagine que l'autorité de contrôle qui s'appelle le CSA, que Michel connaît bien, puisqu'elle a été membre de la première instance de contrôle, comment se fait-il qu'alors que ce personnage, commentateur, effectivement, de CNews, mais journaliste avant tout, et commentateur politique, ce personnage dont on dit qu'il sera candidat, et probablement le sera-t-il, mais qui n'est pas encore candidat, comment se fait-il qu'il soit déjà interdit de séjour, si j'ose dire ? C'est-à-dire, interdit de séjour, je m'explique, Michel, tu me regardes avec les gros yeux, parce que tu vas me dire que j'exagère.
Elle n'est pas armée. Elle a une tenue camouflage, mais elle n'a pas dit trahir.
Mais il est décompté. C'est comme s'il était déporté. Il est décompté. Et il n'y a aucune raison objective, aucune raison juridique, aucune raison politique, si ce n'est qu'il y a eu effectivement une volonté de la part de quelqu'un de lui demander de faire cette manœuvre. Et le président du CSA a eu le tort, le grand tort.
Le tort, le grand tort, mais il a subi des pressions. Hein. Ça a commencé au mois de juin avec le Séjourné, qui est le conseiller de Macron, qui voulait déjà que les éditorialistes politiques, leur temps soit décompté. Et dans les éditorialistes politiques, ils ne pensaient qu'à Zemmour, qui est assez anti-macronien, il faut dire. Et puis il y a eu l'orphelin. Et alors, dimanche soir, ou samedi soir plutôt, chez Ruquier, Léa Salamé, dont on connaît le goût pour le pluralisme, a demandé à Castex quand est-ce que vous, Zemmour, qu'est-ce que... Et là, le Premier ministre a dit, ah, mais il y a des institutions, il y a le CSA. Eh bien, le président du CSA, c'était le samedi, le mercredi, il a fait ce communiqué pour dire qu'on allait décompter parce que c'était au motif que Zemmour est un acteur du débat politique. Acteur politique, c'est juridiquement, ça ne veut rien dire. Parce qu'on peut dire aussi que Finkielkraut, d'autres sont des acteurs. Mais le problème, c'est qu'il va être candidat probablement à la présidentielle.
Bon. Donc on est dans un nœud.
On est dans un nœud, mais sauf qu'il n'est pas encore. Que ça, son temps de parole soit décompté lorsqu'il sera candidat. Et là, c'est pour forcer, c'est pour forcer CNews à le virer plus tôt. Parce que... Zemmour, il passe 5 heures par semaine à CNews. 5 heures, ça fait 20 heures par mois. Si on donne 20 heures par mois à Zemmour, ça veut dire qu'il faut redonner 20 heures aux autres. Oui. C'est à la fois un gâteau qui est coupé un tiers pour les
y compris Jacques Cheminade, etc.
Voilà, un tiers pour les autres, et ça devient impossible à gérer.
J'ai rien contre Jacques Cheminade.
Oui, d'accord. Mais ça devient impossible à gérer. C'est pour forcer CNews à se séparer plus vite de Zemmour.
Oui, Charles. Voilà. Et après, il faut qu'on fasse une pub.
Il y a à peine un mois, c'est amusant ou intéressant, c'était le Baron Noir, Zemmour. Ouais. C'était une fantaisie de fin de souper. Aujourd'hui, c'est par lui que commencent tous les dîners, quasiment. Bon.
Mais il est à 7 ou 8% selon la projection.
Il peut être aidé par les erreurs de ses adversaires.
Oui, bien sûr.
Et moi, je trouve qu'il est aidé dans cette affaire. Parce que l'interdiction, la recommandation de décompte du président du CSA sonne comme une erreur. Pour moi, en tout cas, une erreur de censure. Et beaucoup de gens, je pense, rejoignent cette opinion.
Alors, nous en reparlons juste après une première pause. Et c'est Michel Cotta qui reprendra ses premiers, Michel. Il est 10h20, 7h20.
10h, 11h. Les grandes voix d'Europe 1. Les grandes voix d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta, on continue de parler d'Éric Zemmour. Michel, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit.
Je parle, non pas... à la place du président du CSA, mais je me mets à sa place.
Ouais.
Il a été, depuis très longtemps, depuis un mois, on lui dit, attendez, on ne peut pas faire parler quelqu'un qui est devenu, qui sera candidat, jusqu'au dernier moment, parce qu'au fond, c'est lui donner une tribune que vous ne donnez à personne d'autre. Et là, sur ce point, pardonnez-moi, je trouve que le président du CSA, qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup consulté, a dit, in fine, oui, il faut décompter. Décompter, c'est pas du tout, je suis désolé, Gérard, c'est pas du tout dire, c'est censuré, pas du tout. S'ils veulent donner une heure à qui veut, aux autres candidats, quand ils seront candidats, c'est très bien. Il reste que garder une place quelqu'un qui n'est plus un éditorialiste. Vous savez, quand c'était Laurent Ruquier qui me racontait que dans les derniers moments de son démission avec Laurent Ruquier, quand Laurent Ruquier lui passait la parole en lui disant « Vous avez une question à poser ?» Éric Zemmour répondait « Non, mais je ne suis pas là pour poser des questions. » Il était déjà cette espèce d'évangéliste qu'il est devenu. Par conséquent, je crois qu'on ne peut pas laisser, on peut peut-être limiter son temps de parole, en attendant, la décision du CSA n'est pas dictée uniquement par le pouvoir.
Il y a aussi beaucoup d'anciens membres du CSA, comme notre ami François Laborde, en rigole, et beaucoup d'autres.
Ouais.
Et
oui,
simplement,
oui, c'est facile
moi je suis de ceux qui ne punissent pas les gens uniquement sur l'intention.
C'est pas une punition. Mais si. On décompte.
Qui ne punissent pas les gens uniquement sur l'intention de l'action. Là, en l'occurrence, il n'est pas candidat, mais on prend des contre-mesures comme s'il était déjà candidat.
C'est
ça,
c'était
inacceptable dans notre système démocratique. Et le président du CSA s'est déshonoré.
Je le dis
comme je le pense,
monsieur
Rockmestre, c'est déshonoré.
Mais en attendant, c'est comme pour tout, en en parlant bien, en en parlant mal, en attendant, on en parle, ça fait de la publicité.
Voilà. Alors, ne me dites pas qu'il ne compte pas dans le débat politique.
Non, non, mais ça fait de la publicité. D'ailleurs, c'est une publicité qui tombe bien parce qu'il sort un livre que tu as lu et qui sort dans 8 jours. D'ailleurs, Amazon dit déjà qu'ils sont croulés sous les demandes de gens qui veulent l'acheter. Et puis, ça va quand même... Et je veux dire, les macronistes qui ont demandé au CSA d'agir, c'est aussi qu'ils savent...
Pas seulement les macronistes, tous les partis politiques ont demandé...
Tous les partis politiques ont demandé,
le CSA écoute plus les conseillers
de
ceux de Marine Le Pen ou que ceux de LFI. Bon, mais franchement, peu importe. Pourquoi les Macron... Je sais qu'en ce moment, dans le camp Macron, il y a un débat. Il y a ceux qui disent, écoutez, lui, il va arriver, le perturbateur, comme dit le Figaro magazine à la une, eh bien, ça va d'abord faire baisser Marine Le Pen. Ça assure... Il lui prend des voix, ça c'est sûr. Et même aussi, Frédéric Dabi nous le dit sur Xavier Bertrand, vous voyez. Donc la droite, il fait baisser la droite.
Donc au contraire, les Macroniens devraient...
Donc les Macroniens...
Les Macroniens,
mais justement,
non,
mais ils disent que la droite...
Ils ne sont pas d'accord entre eux.
Ils ne sont pas d'accord avec eux. Et les autres disent, attention, ça peut se retourner contre vous.
Bien sûr.
Voilà. Et que vous allez ajouter du chaos au chaos. Et moi, j'ai discuté avec plusieurs des gens du camp de Macron qui pensent qu'avec les sondages qu'il a, il est presque imbattable, sauf avec ce manque d'empathie pour lui qu'on le ressent, tous les élus macronais, quand ils sont sur le terrain. Voilà.
Non, moi, je crois que l'énorme publicité...
Avec Éric Zemmour,
Ce qu'il y a à voir avec Éric Zemmour, c'est que là, il y a une espèce de temps suspendu. C'est toujours, pour l'instant, un Macron, deux Marine Le Pen. Quand on veut, donnant trop de publicité à un autre, vous voyez, ça peut... Voilà.
Alors, l'erreur, je crois, effectivement, politique, de ceux qui, effectivement, essayent aujourd'hui de le mettre de côté, c'est que la campagne formidable qu'il va faire autour de son livre, qui là, pour le coup, ressemble à une campagne électorale, je suis d'accord. Sur les apparences, il va se balader un peu partout, il va faire toutes les grandes émissions.
Ils en font tous un, de toute façon, un livre.
Il va faire toutes les grandes émissions politiques à partir de lundi matin. Donc, bien évidemment, le but, l'objectif, il est simple. C'est un stratège aussi, Zemmour, comme beaucoup d'autres. Et le but, c'est simple, c'est atteindre la barre fatidique des 10 points. Il est à 7-8 dans les sondages. À 10 points, il devient le cauchemar de tout le monde. Pourquoi le cauchemar de tout le monde? Parce qu'on avait tous dans notre logiciel, dans notre tête, l'idée que c'était plié, que c'était Macron-Le Pen. Si quelqu'un, et c'est lui en l'occurrence qui peut le faire pour l'instant, si quelqu'un apparaît à 10 points, 10, 12 points, il apparaît comme celui qui peut casser.
Conclusion en 10 secondes, Charles Villeneuve.
Conclusion, le président du CSA l'a aidé à créer une dynamique. Avec sa décision qui a toute l'apparence d'une censure. Quoi qu'on en pense autour de cette table. Et moi, j'adhère totalement à l'analyse de Catherine et de Gérard quand ils disent de toute façon que, bien évident, il devient d'un truc rigolo, il devient un truc dangereux.
Dans un instant, avec les grandes voix, on parle de Salah Abdeslam, les attentats du 13 novembre 2015. À tout de suite.